Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonne année à vous tous, bien évidemment.
Ah, c'est gentil, bonne année à vous. Peut-on dire d'un arbre qu'il est vieux comme Mathusalem ?
On peut d'autant le dire qu'un arbre s'appelle le pin de Mathusalem, en référence bien sûr au célèbre personnage biblique qui aurait vécu 969 ans. Le pin de Mathusalem a pour véritable nom pin de Brist-le-Cône ou Pinus longaeva, et cette appellation botanique indique avec justesse que cette variété de conifères est capable de vivre longtemps, très longtemps.
Alors, quel est l'âge de ce pin de Mathusalem ? Et d'abord, où vit-il ?
Il pousse tranquillement dans le massif des Montagnes Blanches en Californie, dans un endroit tenu secret pour éviter le vandalisme. Il a longtemps été considéré comme l'arbre le plus vieux vivant sur la planète. Il est aujourd'hui âgé de 4850 ans et son âge, contrairement à celui de Jeanne Calment, ne fait pas débat.
Et il n'est pas le seul pin de Brist-le-Cône à avoir atteint cet âge plus que canonique.
Oui, le pin de Mathusalem est étudié et daté pour la première fois en 1957, année bénie. Les scientifiques sont, vous en doutez, enthousiastes d'avoir fait une telle découverte. Aussi ne ménagent-ils pas leurs efforts quand ils découvrent dans le Nevada en 1964 un arbre qui lui aussi semble très vieux. Sans tarder, ils le baptisent Prometheus. Là encore, ils sont ébahis. Il n'y a pas d'autres mots quand ils constatent que l'arbre serait âgé de près de 5000 ans.
Est-ce qu'il existe une méthode efficace pour dater un vieil arbre ? Quand j'étais plus petit, on comptait les ronds à l'intérieur du tronc.
Alors le scientifique qui s'intéresse justement à ce végétal, à Prometheus, se nomme Donald Rusk Curry. Il est américain et âgé de 30 ans et il sait que votre méthode, celle qui consiste à couper un arbre et à compter le nombre de cernes, eh bien, est la plus efficace effectivement pour dater le végétal.
Et les anneaux de croissance, il n'a tout de même pas abattu Prometheus.
Alors, je vais vous répondre par cette citation d'Albert Einstein. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. On sait donc maintenant avec certitude que le pin était âgé de 4844 ans, comme quoi on peut être scientifique et un fiefé crétin.
Autre chose ?
Oui, alors, bonne nouvelle toutefois, parce qu'il faut quand même partir sur une bonne base pour cette nouvelle année. Et donc, pour la commencer avec le sourire, un pin millénaire vient d'être localisé au cœur même des montagnes rocheuses en Californie. Il vit comme ses congénères à haute altitude, et il est lui aussi de petite taille. En fait, ses pins vivent longtemps parce qu'ils se développent lentement et ils ne poussent que de quelques mois par an. Les appareils modernes de type scanner, adaptés pour la dendrochronologie.
La dendrochronologie ?
Oui, c'est une science qui étudie la largeur et le nombre de cernes annuelles de croissance et qui permettent une datation précise, eh bien cette datation met en avant un âge, là aussi canonique. Ce pin qui n'a pas encore de nom est âgé de 5064 ans. Et pour ce début d'année, je lui souhaite à lui aussi tout le bonheur du monde.
Vos réponses, vos conseils aux auditeurs, auditrices de France Inter à la Marathon. Jackie, elle nous écrit en disant que dans son jardin-terrasse, il y a un vieux cerisier de 30 ans, mais l'arbre meurt doucement. Alors sa question, peut-on soigner ce vieil arbre ? Et comme elle le craint, si ce n'est pas possible, est-ce qu'elle peut le fossiliser ?
Alors déjà, il est vrai qu'un cerisier âgé de 30 ans n'est plus un gamin. Dans un jardin, c'est déjà un vieux pépère. Sur une terrasse, sur un balcon, c'est même miraculeux qu'il ait pu tenir 30 ans. Fossiliser, pourquoi pas ? Il suffit simplement de le maintenir, de le laisser, de ne plus y toucher. Pourquoi ne pas en profiter d'ailleurs pour utiliser la structure morte pour laisser courir des plantes grimpantes ? Vous avez un arbre qui vivait sur votre terrasse. Il permet à du chèvrefeuille, à du jasmin, à du lierre, à de la vigne vierge, à des clématites. C'est merveilleux, les clématites. Donc pourquoi ne pas l'utiliser effectivement
comme support,
mais il existe bien les techniques pour fossiliser le bois. Ce sont des techniques généralement polluantes. On n'y touche pas. Hein. Il suffit simplement, les gens le savent peu, d'éviter surtout d'humidifier la terre, parce que le bois, tantôt sec, tantôt mouillé, se dégrade plus rapidement.
Christiane a relevé, elle a noté que lorsqu'elle achète une orchidée, la fleur est toujours dans un pot en plastique transparent. Pourquoi donc ?
Important, observez bien, il y a des racines extérieures. L'orchidée est une plante dite épiphyte. En fait, elle vit généralement dans les forêts amazoniennes. Je parle de l'orchidée telle qu'on la trouve dans le commerce, celle que l'on achète pour fleurir l'appartement. Eh bien, ces orchidées vivent généralement en hauteur, dans le creux des arbres, et il n'y a qu'un petit morceau de déchet qui a permis à la plante de se développer à la fourche d'un arbre généralement. Et vu que la plante ne peut pas enfoncer ses racines dans la terre, et vu qu'elle a besoin d'humidité, elle a besoin de se nourrir, elle produit des racines extérieures. Ce sont ces racines blanches qui vont justement absorber l'humidité de l'air. Donc l'avantage des pots en plastique transparent, ils permettent à la racine de ne pas se dégrader et de pouvoir absorber l'humidité de l'air. On n'y touche pas et on remettra du plastique blanc.
Quand vous parlez de plantes épiphytes, ce sont des plantes qui reposent sur les autres pour pouvoir grandir et se développer.
Ce sont des plantes qui ont besoin des autres pour vivre, mais qui ne sont pas parasites.
Anaïs a planté un oranger du Mexique sur sa terrasse, une terrasse venteuse et non abritée. Il y a 2 semaines, elle s'est aperçue que l'oranger du Mexique avait perdu quelques feuilles. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Non, mais attention, l'oranger du Mexique est capricieux lors de la plantation. Il est quelque peu délicat. Attention toutefois à ne pas l'arroser trop souvent. L'oranger du Mexique déteste avoir les pieds dans l'eau. Donc, on se contentera simplement de l'arroser lors de la plantation. Et après, on attendra le printemps avant de l'arroser avec raison.
Un conseil, un livre sur votre bureau ce matin.
Pour débuter l'année sur les chapeaux de roue, La scandaleuse vie sexuelle des plantes. C'est signé de Michael Alabi. On y parle des avantages de la nature, plantes aphrodisiaques, les kidnappeurs, les coquines et les catins, les timides et les narcissiques. Tout est évoqué dans cet ouvrage instructif et drôle à la fois.
Mais c'est pas scandaleux.
Mais les plantes parfois ont de quoi vous faire rougir. Vous qui êtes très prude, Patricia, de temps en temps, c'est assez étonnant.
Et
c'est
publié. Je suis à votre contact.
Et c'est publié aux éditions Webeck.
C'était le jardinier en chef de Versailles et sa main verte, Alain Baraton. Merci Alain et à demain.
À demain.